L'Éternel est mon berger. Nous connaissons bien cette petite affirmation et pourtant, elle recèle des trésors de richesses et aussi de problèmes, je dirais. Le premier problème, je vous le poserai de la façon suivante. Qui est votre pasteur? Alors je dirais, c'est moi, je suis votre pasteur. Eh bien, la question déjà n'est pas simple. Parce que vous le savez, pasteur, c'est l'ancien mot français pour dire berger. Et donc, si je dis qui est votre berger, ce n'est pas moi. Votre seul berger, votre pasteur, c'est le Christ. Et donc, quand moi, je prétends me dire votre pasteur, je fais une usurpation de mauvais goût. Et c'est d'ailleurs assez étrange qu'au moment de la réforme, quand les réformateurs ont cherché un nom à donner aux responsables des églises, ils ont dit « il ne faut pas les appeler père », parce que le Christ dans l'Évangile dit « n'appelez personne père, car vous n'avez qu'un seul père, c'est celui qui est dans les cieux ». Alors pour éviter de donner un titre divin aux responsables d'église, ils l'ont appelé « pasteur », c'est-à-dire « berger ». Mais qui est votre berger? C'est l'Éternel, parce que le psaume 23 dit « l'Éternel est mon berger ». Et c'est Jésus qui dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, « Je suis le bon berger ». Il est donc assez étonnant que les protestants, voulant éviter un piège, sont tombés à pieds joints dans le même piège qu'ils dénonçaient de la part de leurs adversaires. Alors il est vrai que l'on aime bien cette image du pasteur de l'Église. Le pasteur, celui qui prend soin du troupeau, qui se préoccupe de chacun et qui aide les fidèles à avancer. On aime cela, mais en fait, je crois que mon vrai rôle en tant que responsable de communauté n'est pas d'être berger ou d'être pasteur. Je dirais plutôt que moi, je suis le chien de berger. Le chien de berger, c'est celui qui s'agite dans tous les sens, qui court, qui aboie, qui crie, qui mordit les mollets des gens et qui essaye de rameuter derrière le seul vrai berger qui est le Christ. Et autrement dit, je suis moi plutôt le chien de berger que le berger lui-même, car vous avez un seul berger. Donc notre berger, notre pasteur, effectivement, c'est Dieu. C'est le Christ, c'est Dieu parce que l'Éternel est mon berger. Et là aussi, nous aimons bien cette image sympathique et un petit peu bucolique. Cette image du psaume 23, l'Éternel est mon berger, il me conduit dans de verts pâturages. Et ça nous ramène un peu à une sorte d'image de Marie-Antoinette dans le parc de Versailles avec ses moutons et toutes ces images agréables. Et après tout, pourquoi pas? Mais en fait, sans que l'on s'en rende compte à la première vue, cette affirmation que Dieu est berger est une affirmation théologique extrêmement forte et qui est beaucoup plus importante que ces images de vert pâturage. Parce que je crois que cela définit comment Dieu se positionne par rapport à nous et ça définit son rôle. En effet, dire que Dieu est berger, cela veut dire déjà que Dieu, tout en étant notre roi, notre maître, notre Seigneur, n'est pas un tyran, que Dieu n'est pas un guerrier, que Dieu n'est pas un monarque absolu, mais que Dieu est un berger. Or, le berger, ce n'est pas un homme de pouvoir, ce n'est pas un homme de guerre, ce n'est pas un homme de puissance. Le berger, c'est quelqu'un de pacifique, et de humble. Le berger, il n'est pas là pour jouer avec des armes de guerre, il n'est pas là avec des épées pour faire peur, pour terroriser. Le berger, il n'est pas là pour juger, ni pour faire trembler, ni pour culpabiliser, mais il est là pour guider, pour rassurer et pour prendre soin. Et autrement dit, dès que l'on affirme que Dieu est berger, cela devrait nous inciter à faire un très grand ménage dans notre théologie et à reléguer aux oubliettes toutes ces images d'un Dieu terrifiant, toutes ces images d'un Dieu royal et un peu, je dirais, tellement grand, tellement immense que nous devrions en avoir peur, toutes ces images d'un Dieu qui juge, d'un Dieu qui punit, d'un Dieu qui condamne, toutes ces images même d'un Dieu qui éprouve, qui tente, tout cela est absolument absent de l'idée de berger. Et pourtant, pendant des siècles et des siècles, on a prêché ce type de Dieu-là. Eh bien, je voudrais, moi, garder justement comme confession de foi l'idée que Dieu n'est ni un guerrier, ni un juge, ni une menace, ni même un être extrêmement puissant, ni un roi sur son trône, mais Dieu, il est mon berger. Et le berger, il est là pour guider, pour rassurer, pour prendre soin. Le berger, à la fois, il veille à ce que le troupeau ne manque de rien. Et j'aime cette idée que Dieu veille sur chacun de nous, justement. Et le berger aussi, il mène le troupeau, il le fait avancer, il marche avec lui. Et on a donc ces deux choses essentielles, je crois, de ce que peut nous apporter la foi, qui est d'un côté le confort, le bien-être, et en Dieu j'ai tout ce dont j'ai besoin, là, Dieu me donne tout ce qu'il me faut pour vivre, et en même temps aussi cette dynamique de ce Dieu qui nous met en marche, qui nous fait avancer, qui nous met en route, qui nous donne un chemin, un projet. Et il est même plus que cela. Il est même plus que cela parce que le berger, c'est celui qui nous aime. Et ça ne se voit pas immédiatement. Mais ceux qui ont fait de l'hébreu le savent. En hébreu, le berger, ça se dit roé. Et roé, ça vient d'un verbe ra'a qui veut dire aimer. Alors je ne sais pas pourquoi, en hébreu, le berger se dit avec un mot qui veut dire aimer. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et ra'a, c'est aimer. Et c'est aussi le même mot que l'on trouve pour désigner le prochain. Quand on dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ce prochain que je dois aimer comme moi-même, eh bien c'est « réa », le prochain, celui que j'aime, celui que je dois aimer comme moi-même. Et donc dire que Dieu est berger, c'est dire non seulement qu'il prend soin de nous, mais aussi qu'il nous aime. Et aussi encore qu'il est un petit peu comme notre prochain, celui qui est proche. Et là encore, cela démonte cette idée que l'on nous a parfois affirmé que Dieu est lointain, terrifiant, mais Dieu n'est pas une personnalité lointaine. Dieu, il est mon compagnon, il est mon confident, celui qui est tout proche, juste à côté de moi. Et quand le Christ dit être le bon berger, il dit cela, il dit « le bon berger donne sa vie pour ses brebis » et il dira à un autre endroit « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime ». Donc vous voyez que cette affirmation du Dieu berger va très loin jusque dans cette relation d'amour que nous voulons avoir ou que nous connaissons de Dieu vis-à-vis de nous. Mais il y a un problème pour moi tout de même. C'est que je défends avec enthousiasme cette idée du Dieu berger, mais en même temps je ne peux pas m'empêcher de penser que si Dieu est notre berger, alors nous sommes des moutons. Et là, peut-être arrivons-nous à la limite de l'image. Parce qu'être des moutons, ça n'est pas très valorisant. Et je n'ai pas du tout envie d'être un mouton. Et surtout pas un mouton de Panurge. Alors c'est pourtant cette vieille idée qui traîne dans le christianisme depuis toujours. Quand on désigne les paroissiens sous le nom de ouailles, je dis le pasteur et ses ouailles, et bien ouailles, c'est le mot en vieux français pour désigner les moutons, les brebis, le petit bétail. Et donc, est-ce que je suis un mouton? Eh bien, je crois qu'il faut revisiter l'affaire parce que certainement, notre vision des choses est trompée par le décalage qu'il y a entre ce qu'était un mouton à l'époque et ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'image de ces immenses troupeaux de 3000, 4000 moutons ou 5000 moutons qui se promènent dans les alpages et qu'en est un de plus, un de moins, le berger n'en est pas toujours exactement conscient. Mais il faut savoir qu'autrefois, les troupeaux étaient tout petits. Et une famille, elle avait peut-être deux brebis, parfois une seule. Et ces moutons, ils faisaient partie de la famille, je dirais. C'était à la fois leur seule richesse, leur seul bien, leur seule source de revenus. Et en même temps, elles dormaient dans la maison, sous le lit. Et donc ces moutons, ce n'étaient pas des bêtes anonymes, mais c'était à la fois leur richesse, une présence, une sorte de chaleur animale et presque humaine à côté d'eux. C'était donc très proche. Et par conséquent, il faut comprendre cela, ce Dieu comme berger qui, justement, prend soin. Et le Christ dit dans l'évangile de Jean, il connaît chacune de ses brebis par leur nom et il en prend soin. Et je pense que c'est cela qu'il faut voir. Donc, admettons, Dieu, notre berger, qui est à la fois celui qui prend soin et qui fait avancer, il est notre guide, mais en même temps, je crois que cela explique que s'il nous guide, ce n'est pas pour aller à la guerre, mais il nous guide pour aller vers les endroits où nous serons bien. C'est que justement, là encore, trop souvent, le christianisme a voulu présenter la morale chrétienne et les exigences évangéliques comme des sortes d'exigences qui sont terribles pour nous, qui sont dures et insupportables, mais qui sont indispensables pour le bien commun. Mais le berger n'utilise pas ses brebis comme valet de chambre. Le berger n'utilise pas ses brebis comme soldat pour défendre son territoire. Le berger n'utilise pas ses brebis pour lui rendre service. Mais ses brebis, s'il les mène dehors, c'est pour qu'elles aient à manger, pour qu'elles soient bien, pour qu'elles soient là où elles seront en meilleure santé, les plus grasses, les plus à l'aise et les plus en sécurité. Et je pense que justement, cela nous montre que l'exigence évangélique n'est pas une sorte de morale a priori qui est là pour nous contraindre en disant « c'est affreux, vous souffrirez, c'est un sacrifice que vous faites, mais c'est pour le bien et le service de Dieu ». Mais ce que Dieu nous demande, même dans l'Évangile, c'est pour notre bien, pour nous aider, pour nous amener là où nous serons heureux. Et je crois que la morale évangélique n'est finalement que pour notre propre bonheur. Et j'en suis absolument convaincu. Et donc, ce n'est pas non plus, malgré ce que l'on a prêché d'autrefois, parce que les images peuvent être complémentaires dans la Bible, ce n'est pas non plus Dieu qui nous met en avant comme une armée pour combattre, comme un troupeau paisible et pacifique que l'on emmène vers les verts pâturages. On va ensemble vers la vie. Et dans l'Ancien Testament, l'image même du berger, c'est David. David, avant de devenir roi, et Jésus, qui est le Messie, celui que l'on attendait, est dit être fils de David. Et donc, il y a là aussi une petite incompréhension dans le judaïsme du début du Nouveau Testament, c'est que les Juifs attendaient quelqu'un qui viendrait, qui serait le fils de David. Et là, il y avait deux types de compréhension des choses. Ceux qui voyaient en David le premier David, justement le petit berger. Vous savez, au début, quand Samuel veut trouver un roi, il savait qu'il fallait le choisir dans la famille d'Isaïe. Alors Isaïe fait passer tous ses fils les uns après les autres, tous très costauds, très forts, rompus au combat, remplis d'armes, etc. Et chaque fois, Samuel dit « Non, c'est pas celui-là ». Et puis, alors, comme il ne trouve pas, Samuel dit à Isaïe « Mais tant, tu m'as fait passer tous tes fils, là ?» Et il dit « Non, il y a encore le petit dernier, mais lui, il ne peut pas faire l'affaire, c'est un petit berger. Il est dans les champs, il n'est pas très costaud, il a une belle figure, il est gentil, mais il ne peut pas faire l'affaire, certainement pas. » Alors fais-le passer quand même. Et dès qu'il voit David, Samuel dit « Eh bien, c'est lui qui sera le roi d'Israël. » Justement, ce berger faible et tendre. Et puis ensuite, il est vrai que les choses vont un peu changer. David va devenir un roi immense, qui va faire la guerre, qui va accumuler des montagnes de cadavres, et qui va faire des tas de choses extrêmement violentes. Donc ce sera un grand roi. Mais du coup, l'image de David est double. Et quand on disait dans le judaïsme « Le Messie, ce sera le fils de David », c'est-à-dire nous voulons quelqu'un qui soit pour nous sur notre tête comme David. Certains se disaient « Ça va être un grand roi qui va rétablir la royauté d'Israël, qui va chasser les Romains à coups de guerre, à coups de bataille, à coups de mort, un roi, un Messie puissant, violent », alors que Jésus a dit « Oui, je suis bien le descendant de David ». Mais non pas le roi puissant et sanguinaire, mais il vient comme étant justement le petit berger du début. Et c'est celui-là qu'il fera. Et Jésus, de cette même manière, va donc refuser cette image royale du Dieu violent pour reprendre cette image royale du berger. Et c'est là très, très particulier. Et d'ailleurs, Jésus, je pense, comme le petit David, n'aura pas une grande force, il ne fera pas de grands combats, il ne fera rien de spectaculaire, mais il sera tout dans l'intelligence, dans la finesse, dans la douceur, dans la tendresse, et pas néanmoins totalement sans puissance, puisque David, quand même, avec son astuce et sa ruse, avec sa petite fronde, arrivera à déloger l'infâme géant Goliath. Mais en tout cas, c'est pas avec des armes de guerre. Et donc, on sort ainsi d'un certain Dieu brutal, violent, jaloux, pour arriver à un Dieu doux, un Dieu humble, un Dieu tendre, presque comme un petit enfant. Et ça nous ramène d'ailleurs à un autre conflit extrêmement compliqué qui traverse aussi toute la Bible. C'est le conflit entre deux images de ce que l'on doit être, le conflit entre les sédentaires et les nomades. On trouve toujours ces deux modes de vie dans la Bible. Or, les bergers étaient des nomades et les sédentaires, c'était les cultivateurs et ils habitaient dans les villes. Et je crois que la Bible a toujours eu une certaine méfiance pour les sédentaires. Parce que dès que l'on possède un territoire, dès qu'on a une ville, on construit des murailles et on fait la guerre. Le nomade, s'il est dans un endroit où il n'est pas bienvenu, eh bien, il s'en va. Il va un peu plus loin. Et s'il y a un problème, il s'adapte. Le nomade ne possède pas de terre. Il ne possède rien. Le nomade, ne possède que ses bêtes, que les âmes dont il a la charge. Et dire que Dieu est un berger, voyez-vous, c'est là une affirmation d'une force absolument incroyable, de dire justement que Dieu n'a pas de territoire. Alors, je ne voudrais pas trop développer la chose d'un point de vue politique, avec la question de l'espérance messianique, de savoir est-ce que ce que Dieu doit nous offrir, c'est un territoire, est-ce que Dieu doit offrir un territoire à Israël? Je pense que le territoire de Dieu, c'est partout. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et donc le territoire de Dieu, ce n'est pas en Terre Sainte, mais c'est ici, dès qu'il y a des âmes, parce que Dieu est un nomade, et donc Dieu ne possède aucune terre et aucun lieu. Et les protestants vont aller jusqu'au bout de cette logique en disant la présence réelle de Dieu, elle n'est même pas dans un lieu donné, mais là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et dès qu'il y a quelques personnes qui prient Dieu, la présence réelle, elle est là. C'est-à-dire qu'elle se déplace et elle est là où on se réunit pour prier. C'est donc la communauté qui fait l'Église et pas les murs, pas le pays, pas le lieu. La seule richesse de Dieu, vous disais-je, c'est ses âmes, c'est son troupeau. Sa seule richesse à Dieu, c'est nous, c'est vous, ceux qu'il aime. Et Dieu n'a rien à voir avec les questions de politique. Dieu, ce n'est pas dans des questions de ville, de guerre, de nationalité, ce n'est pas des questions d'église et de patrimoine. Dieu ne possède rien, son seul patrimoine, il est spirituel et humain. Et le judaïsme a toujours incité à ce que nous soyons nomades. On dit souvent, et je crois que c'est sans doute vrai, qu'il y a dans Deutéronome 26, verset 5, cette magnifique affirmation que le Deutéronome invite le juif à répéter régulièrement quand il offre un sacrifice, en disant « Mon père était un araméen nomade. Mon père était un araméen nomade. » Certains disent que c'était la confession de foi archaïque, la plus ancienne et fondamentale du judaïsme. Mon père était un araméen nomade. Et l'incitation donc à se voir comme un nomade. Un nomade, c'est aussi quelqu'un qui est en route, quelqu'un qui avance, qui s'adapte et qui se modifie sans cesse. Et cette image a été reprise dans le christianisme avec la notion avec cette idée que le chrétien doit être un pèlerin, c'est-à-dire quelqu'un qui est en marche. Alors le pèlerinage, ça n'a rien à voir avec le fait d'aller dans tel lieu ou dans tel lieu saint ou pour faire un acte religieux, mais que le chrétien soit pèlerin veut dire que l'on est, toute sa vie, le chrétien est en marche. Et donc ce n'est pas quelqu'un qui s'appuie sur une forteresse de certitude, mais le chrétien est quelqu'un qui cherche, qui est toujours en quête de nouveaux pâturages, de nouvelles idées, d'une nouvelle espérance, d'une nouvelle conception de Dieu, d'une nouvelle façon d'être et d'une nouvelle solution, je dirais, pour vivre et pour survivre. Le chrétien doit toujours être en marche et il sait que comme un nomade, il est toujours étranger sur cette terre. Et c'est même encore plus que cela, je crois. Parce que dans cette confession de foi qui dit « Mon père était un araméen nomade », en hébreu, ça se dit « Avi oved arami »« Mon père oved un nomade ». Or, curieusement, ce mot « oved » n'est traduit par « nomade » que là dans la Bible. Alors que partout ailleurs, « oved » veut dire « qui disparaît, qui s'évanouit, sans consistance, qui périt même ». Et je crois que les traducteurs ont mis la nomade uniquement comme une traduction qu'on appelle contextuelle, parce que comme on ne savait pas traduire, on a dit que mon père était un araméen, ben voilà, nomade. Bon. Mais en fait, mot à mot, c'est mon père était un araméen évanescent, sans consistance. Et c'est d'ailleurs en lien aussi avec autre chose, c'est que le premier nomade dont il est question dans la Bible, c'est Abel, dont on nous dit Abel était berger et Caïn était cultivateur. De nouveau, cette lutte entre les nomades et les sédentaires, Abel qui était nomade, berger, et Caïn qui est sédentaire et cultivateur. Abel est pratiquement le même mot que Aved et qui veut dire aussi fumée, buée, vapeur, et Abel qui est ce qui est insaisissable, une légère brume, vapeur, et qui périt, qui disparaît et qui va s'évanouir, la légèreté. Et j'ai toujours été étonné de ce nom de légèreté donné à Abel. Et pourtant, peut-être, justement, y a-t-il là quelque chose d'important, c'est que l'homme doit se savoir léger. Il doit se complaire dans cette légèreté, dans ce détachement qui fait qu'il n'a rien dans sa vie qui, idéalement, soit justement des sortes de boulets qu'il traîne, d'attachements matérialistes, de boulets qui fait qu'il essaye de s'accrocher à quelque chose. Mais l'être humain doit avoir cette espèce d'indépendance et de légèreté absolue qui fait que rien ne le retient. Et de même, je pense que dire que Dieu est comme cela nomade, cela voudrait dire que Dieu aussi est comme un nomade, comme quelque chose de léger, un Dieu léger, insaisissable, invisible. Et que Dieu peut-être doit aussi rester comme ça pour nous, une vapeur, une présence ténue, fragile, gracile, mais en même temps une présence qui est l'essentiel. Parce que je suis convaincu que la plupart des choses qui sont belles, même dans ce monde, sont fragiles, sont ténues, sont légères, comme de la dentelle, comme une douce musique. Et Dieu, voyez-vous, en disant qu'il est ce nomade, léger, vaporeux, dirais-je, cela veut dire que le Dieu dans lequel nous voulons croire aujourd'hui, ce n'est pas un Dieu char d'assaut, ce n'est pas un Dieu mastoc, ce n'est pas un Dieu statue mégalithique, ce n'est même pas le Dieu des cathédrales, mais c'est un Dieu qui est faible, qui est petit, qui est léger, insaisissable, et que l'on n'entend même plus s'il y a le moindre bruit, qui disparaît s'il y a la moindre agitation, mais en même temps c'est infiniment précieux, un Dieu tout plein de finesse et de douceur, qui n'est ni une brute, ni un gueulard, mais une vérité qui s'impose avec force, avec évidence, une réalité fine, silencieuse et discrète. Alors vous voyez que dire que Dieu est berger, c'est toute une théologie très particulière du Dieu faible, discret, mais qui est justement l'amour, la tendresse, l'attention et la vie. Et puis il y a un dernier point que je vous dirai, ce qui est sans grande importance parce que c'est uniquement quelque chose qui ne concerne que moi, un témoignage purement personnel et en même temps un jeu de mots un peu lacanien. Le grand psychanalyste Lacan disait que l'inconscient est capable de jouer avec les mots même en faisant des jeux de mots transversaux dans différentes langues. Eh bien c'est ce que je vais faire parce que berger, j'aime particulièrement cette idée de berger parce que c'est aussi le nom d'une bonne partie de mes ancêtres, qui s'appelaient comme ça, ils s'appelaient berger. Et ses ancêtres, qui est la seule branche de mes ancêtres où l'on trouve des pasteurs, alors c'est pour moi très important, avec Eugène Berger, qui a été un grand pasteur, et Samuel, qui a été le fondateur de la faculté de théologie protestante à Paris et de plusieurs paroisses luthériennes dans la région. Bref, des gens importants pour moi. Et j'ai toujours aimé ce nom parce que justement il fait référence à ce berger qui est Dieu, à ce bon berger qui est le Christ. Mais on m'a dit qu'en fait, ce nom de berger ne venait certainement pas de la notion de berger. C'est un nom de l'Est et donc Berger en allemand, c'est pas le berger. C'est celui qui habite les montagnes. Berg, c'est la montagne. Et donc ces bergers, malheureusement, ne sont pas les bons bergers, mais c'est les habitants de la montagne. Mais ça tombe bien, puisque j'aime bien les montagnes aussi. Et la montagne, qui est le lieu où l'on rencontre Dieu, le lieu de la révélation, le lieu de la lumière. Eh bien moi, je voudrais justement être ce berger montagnard. Être à la fois un nomade, mais en même temps, je voudrais vivre en hauteur avec les brebis, vivre de l'amour de Dieu et vivre, je dirais, de l'eau fraîche de sa grâce, dans la lumière de ses sommets. Et ça, c'est mon rêve, mais je pense qu'il faut avoir des rêves dans la vie et que ce n'est pas qu'une utopie. Je n'ai pas tout ça, à la fois le bon berger, je ne suis ni le bon berger, ni celui qui habite dans l'évidence de la présence de Dieu, mais je pense que je l'ai un petit peu, comme chacun de nous pouvons l'avoir un peu, parce que chacun de nous pouvons entrevoir un petit peu de cette grâce de Dieu, ou entrevoir par moments un petit peu de cette douce harmonie d'une présence de Dieu qui nous accompagne dans l'amour, la tendresse et la douceur, et se dire que c'est ça la chose la plus essentielle, la plus importante. Et je suis heureux quand moi, justement, je dis, eh bien, je veux faire partie de ce troupeau, de mon bon berger, et être conduit par sa main bienveillante. Amen.